Éphésiens 5, 17 à 33. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, soyez soumises chacune à son mari comme au Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari.
Cette semaine, il va y avoir deux événements qui vont venir éclairer ce texte polémique de l'apôtre Paul. Le premier événement qui va éclairer ce texte, il va avoir lieu mercredi 6 à 21h. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui va se passer mercredi 6 à 21h? Qu'est-ce qui va se passer mercredi 6 à 21h? Vous ne savez pas? Si? Pardon? La Ligue des Champions? Huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Manchester United. Je voudrais vous demander, est-ce que vous vivez ces matchs-là comme ce couple-ci? Ou alors, est-ce que... Comment est-ce que vous comprenez Paul quand il dit « Femme, soumettez-vous à votre mari », est-ce que c'est ça? « Femme, apporte-moi une bière, parce que je ne veux pas rater un but ». Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez ce texte de l'apôtre Paul? Deuxième événement de cette semaine qui va venir éclairer ce texte polémique de l'apôtre Paul. Il va avoir lieu toute la journée de vendredi 8. Est-ce que quelqu'un sait ce qui va se passer vendredi 8? Ah là, pour un coup, là, ça vient direct. Hein. Ah, oh là là! C'était le cri du cœur. Vendredi 8, c'est effectivement la journée internationale de la femme. Toute la journée. En France, ce qui est visé lors de cette journée de la femme, c'est l'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Ce qui est visé, c'est salaire égal à niveau de compétence égal. Bon, on en est encore loin, mais alors dans certains pays, c'est encore pire. Hein. Et j'ai bien aimé aussi la citation de Montaigne qui est tirée de ses essais. Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Ça nous fait réfléchir. Et là, vous vous dites que peut-être que ce message, ça va être un poil tendu, quoi. Entre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Ok. C'est vrai que d'un côté, on a l'apôtre Paul qui nous dit « Femmes, soyez soumises à votre mari », mais comment comprendre ça aujourd'hui? Et de l'autre, on pousse pour qu'il y ait une égalité, ce qui paraît légitime, égalité de salaire quand on fait le même travail, quand on a le même niveau de compétence. C'est logique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord vider notre sac. On va d'abord vider notre sac à tous. Est-ce que vous êtes d'accord que le texte de Paul paraît choquant un peu? Quelqu'un veut s'exprimer? Quelqu'un veut dire en deux mots ce qui semble choquant en entendant le texte de Paul? N'hésitez pas, hein, on est là pour vider son sac. Faites pas 30 phrases, mais faites 2-3 mots. Comment vous résumeriez peut-être le choc à la première lecture de l'apôtre Paul? La soumission. La soumission, ça paraît complètement hallucinant aujourd'hui. Ok? Autre chose? Choquant? Comment? Ok, on y reviendra tout à l'heure, ça. Ok. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une sorte de déséquilibre entre l'homme et la femme dans ce passage. C'est ça, je suppose que c'est sur ça que tu veux mettre le doigt. Ouais. Okay. Quoi d'autre?
C'est un peu machiste.
C'est un peu machiste, hein, ça semble un peu machiste. Ça paraît pas très juste. Hein. Ok. Alors, il me semble qu'on a déjà pas mal vidé notre sac. Je vous propose que maintenant, on essaye de le re-remplir tout doucement, ce sac. Ok. D'abord, acceptons que ce qui est dit ici, ce qui est demandé par Dieu ici, acceptons que ça ne soit pas inné. Si Dieu nous demande si souvent d'aimer notre prochain, c'est que justement, ça n'a rien d'évident. Sinon, il nous le demanderait qu'une fois si c'était évident, mais ça ne l'est pas. Alors, il faut admettre que ce n'est pas facile et qu'il y a une difficulté là. Pour chacun d'entre nous. Et c'est peut-être là le clin d'œil de Dieu. Peut-être que les femmes ont du mal à se soumettre à leur mari, et peut-être que les hommes ont du mal à aimer leur femme. Peut-être. Acceptons en tout cas qu'il n'y a rien d'inné, et que c'est pour ça que l'apôtre Paul, que Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous rappelle des choses qui sont difficiles à entendre pour nous, difficiles à mettre en application dans notre vie. Et puis, si vous avez le dépliant, enfin la brochure, derrière, vous avez le texte qui est imprimé, j'ai mis en rouge un certain nombre de choses qui vont nous aider à la lecture. Qu'est-ce qu'il dit au début, Paul? Le début de tout ce passage, c'est « Il faut se laisser constamment remplir par l'Esprit ». Et la suite, c'est très pratique, regardez. « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Et le fait de se laisser remplir par l'Esprit, Paul, il va le décliner en 4 verbes. Regardez, je les ai mis en bleu là. Si on se laisse constamment remplir par l'Esprit, on va s'encourager mutuellement, les uns les autres. On va louer Dieu, louer le Seigneur de tout notre cœur. On va remercier Dieu et on va se soumettre les uns aux autres. C'est ça qui va se passer si on se laisse constamment remplir par l'Esprit. Mais le préalable, c'est bien se laisser remplir par l'Esprit. Pas étonnant que nous trouvions la suite bien difficile. Parce que sans Dieu qui nous vient en aide, eh bien très certainement que nous n'y arriverons pas. Alors, ce que je vous propose, c'est d'accueillir ce passage difficile de Paul plutôt avec humilité, plutôt qu'avec amertume. Avec humilité, et pas avec amertume. En nous laissant, on va essayer de se laisser remplir par l'Esprit de Dieu, comme Paul nous y encourage ici. Alors, et vous vous dites, ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi, se laisser remplir par l'Esprit de Dieu? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour se laisser remplir de Dieu, par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a une formule magique à réciter? Non, rien de tout ça. Se laisser remplir de Dieu, ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tous les chrétiens, pour tous, pour tout le peuple de Dieu. Se laisser constamment remplir par l'Esprit, c'est rejeter ce qui attriste Dieu. Ça, c'est la repentance, se détourner de nos fautes. Et c'est s'ouvrir à Dieu dans la confiance, ça, c'est la foi. Repentance et foi. Et la Bible, ici, la Bible est notre seul guide pour ça. Parce que comment sait-on ce qui attriste Dieu, si ce n'est dans la Bible? Et comment sait-on qu'on doit lui faire confiance ou qu'on peut lui faire confiance, si ce n'est en lisant la Bible. Et donc, vous voyez que se laisser constamment remplir par l'Esprit, ça veut dire se laisser constamment renouveler par la parole de Dieu. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Accepter par la foi ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et se détourner de ce que l'on sait être mauvais dans notre vie. C'est ça, se laisser renouveler par la parole de Dieu. Se laisser remplir constamment par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On va essayer de s'immerger dans ce texte difficile de l'apôtre Paul et essayer de se laisser renouveler par ce texte, avec humilité. Pourquoi faire ? Pour qu'on puisse chacun progresser dans nos relations les uns avec les autres, et en particulier les couples, les femmes en étant soumises à leur mari, les maris en aimant leurs femmes. Alors c'est vrai que les femmes sont plus souvent refroidies que les hommes par ce passage, c'est vrai. Mais je voudrais vous montrer maintenant que, en fait, le point le plus difficile, il est probablement pour les hommes. On va essayer de balayer tous les aspects difficiles de ce texte. Le premier, il est là. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Alors c'est vrai que aimer sa femme, ça paraît d'une simplicité extraordinaire, tant qu'on garde sa propre définition de l'amour. Mais là, il n'est pas question de garder sa propre définition de l'amour, mais de prendre celle que Christ nous donne ici, celle que Dieu nous donne. Et celle que Dieu nous donne, c'est aimer vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et Jésus, quand il pose une définition de l'amour, elle est très haute, sa définition de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parole de Jésus. Jusqu'où va l'amour ? Jusqu'à la mort. Donc dans cette définition de l'amour, où il y a véritablement le sacrifice et l'engagement pour la vie. Et donc, eh bien, les maris doivent se sacrifier pour leur épouse. Nos désirs, nos envies, nos besoins doivent passer après ceux de nos épouses. Ce message, avant de vous le donner, je l'ai fait relire par ma femme. Quand elle me l'a rendu, elle m'a dit « Oh, t'as vu tout ce que t'arrives pas à faire ? » Oh, ok. On a tous du boulot, les gars. Il faut retrousser les manches. Jésus, il a consacré sa vie entière. Il a consacré sa vie entière aux autres jusqu'à la mort sur la croix pour nous sauver. Il était là avant tout pour servir et il est le modèle du mari parfait, celui qui se sacrifie pour la femme qu'il aime. Son épouse ici, c'est l'Église bien entendu. Ce n'est pas nous individuellement en tant que croyants, c'est l'Église. Et Jésus, en tant que maître serviteur, il est donc le modèle parfait du mari, à la fois chef et serviteur de sa femme. Donc l'image un peu du mari macho là, qu'on avait au début devant son match de foot mercredi soir, vous ne faites pas avoir les femmes. Ok. Le mari est avant tout le serviteur de sa femme. Il est le serviteur de sa femme, mais nous dit Paul, il est aussi le chef de sa femme. Ouh, ça va devenir tendu. Le mari est le chef de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien en fait, là aussi, être chef de sa femme, ce n'est pas forcément si facile que ça. Parce que, on le sait tous, un chef, il a quoi ? Il a des comptes à rendre à ses supérieurs. Au travail, les chefs, ils doivent rendre des comptes sur les chiffres, sur les conditions de travail de leurs ouvriers, sur la rentabilité de leur secteur. Eh bien, d'une certaine façon, les maris sont soumis à la même chose. Ils sont responsables, aux yeux de Dieu, de la bonne gestion du foyer. Et donc, les hommes, on doit se poser ces questions-là. Est-ce que mon épouse est épanouie ? Est-ce que mes enfants sont épanouis ? Est-ce que le climat familial est sain dans mon couple, dans ma famille ? Vous vous souvenez de ce que Jésus désire pour son Église, hein ? Verset 27, qu'elle soit rayonnante de beauté. Sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Irréprochable, digne de Dieu. Et donc, on commence à bien sentir que le rôle de l'homme en tant que chef de la femme, ce n'est pas du tout de prendre la main sur tous les aspects de la vie de sa femme. Ça n'aurait pas de sens. Ce n'est pas de tout régenter dans la vie de sa femme. Le rôle de l'homme, c'est de permettre à sa femme de s'épanouir et de grandir en Christ. Ok, maintenant que les hommes ont pris cher, maintenant c'est le tour des femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, femmes, soumettez-vous à vos maris? Est-ce que ça veut dire qu'une femme doit tout sacrifier pour son mari? Je vois des noms, oui. Okay. Est-ce que ça veut dire que c'est à la femme de faire les courses, le ménage, les devoirs avec les enfants? Ouais? Non, d'accord. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que cet ordre-là, cet ordre qui est là, « Femme, soumettez-vous à votre mari », il est précédé par un autre ordre avant, le verset qui vient juste avant. Si vous regardez le verset 21, il y a « Soumettez-vous les uns aux autres dans le respect de Christ ». Soumettez-vous les uns aux autres. Et donc, c'est cette soumission mutuelle, en fait, qui est avant tout un devoir pour tous les chrétiens. L'humilité, l'obéissance, le service, ce ne sont pas les devoirs de la femme. Ce sont les devoirs de l'homme et de la femme. Les deux. Et ça, on en a bien pris conscience pour le mari déjà. Le mari comme serviteur de sa femme. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui est demandé très précisément aux épouses ici? Eh bien, très certainement, avec ce qui est dit sur l'homme chef du foyer, très certainement que ça veut dire laisser l'homme prendre ses responsabilités dans la famille. Car c'est bien lui qui sera tenu pour responsable au dernier jour, au jugement dernier. Et donc, eh bien, peut-être que quand une décision doit être prise, on en parle en tant que couple, on en parle entre nous, entre hommes et femmes. On en parle, et dans la quasi-totalité, tout s'arrange dans la discussion, et on prend une décision mutuelle. Mais que si la décision mutuelle n'arrive pas, eh bien, peut-être bien que les femmes devraient laisser l'homme la responsabilité de la décision finale. Il en sera redevable devant Dieu. Dieu a mis en place sur terre des structures d'autorité pour pas que ça soit l'anarchie partout, et il me semble ici que l'homme est cette figure d'autorité dans le couple, et l'homme et la femme à égalité dans la famille envers les enfants. Et puis, je m'adresse aux femmes, il ne vous est pas demandé de vous soumettre à un tyran. Il vous est demandé de vous soumettre à un mari qui vous aime. Regardez le verset 22. Vous, femmes, soyez soumises chacune à son mari comme au Seigneur. C'est une comparaison. La femme, elle est soumise d'abord au Seigneur. Et le Seigneur, lui, il est parfait. Vous n'êtes pas confronté au péché du Seigneur parce qu'il n'en a pas. Jésus est parfait. En revanche, mesdames, votre mari, il en a. Il en a des péchés. Il est imparfait. Nous avons tous besoin de changer. Et donc, tout en respectant son mari, tout en respectant sa position d'autorité sur la famille, sur le couple, les femmes sont invitées à rechercher la sainteté de leur mari. Les femmes sont invitées à le reprendre avec douceur, s'il vous plaît. C'est une soumission aimante dans laquelle l'épouse recherche le bien du mari et de la famille. Alors, je voudrais vous donner un exemple de cette soumission aimante. Certains d'entre vous, les jeunes qui étaient à Union Jeune, vous l'avez déjà entendu cet exemple. Image de soumission aimante. C'est une histoire fictive, c'est celle de Barack et Michelle Obama qui sont au restaurant. Ils sont en train de dîner dans un resto et ils se rendent compte que le propriétaire du restaurant, c'est l'ex-petite amie de Michelle Obama. Et Barack qui n'en manque pas une pour... Il lui dit à sa femme, mais t'as vu, t'as bien fait de te marier avec moi, parce que si tu t'étais marié avec elle, tu serais juste propriétaire d'un resto. Et là, Michel qui lui répond, mais non, tu te trompes. Si je m'étais marié avec lui, c'est lui qui serait président des États-Unis. Et vous voyez en fait comment la soumission aimante de la femme à l'homme et comment l'amour de l'homme pour sa femme peut fonctionner dans un couple. Sans Michel, il est très certain que Barak n'aurait pas été qui il a été. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme prodigieuse. Et très certainement que la réciproque est vraie. Derrière une grande femme se cache un mari aimant. J'aimerais vous proposer une autre image encore pour essayer de comprendre cette idée de soumission de la femme à l'homme dans le couple. Je me suis demandé si on ne pouvait pas comparer un couple à une voiture de rallye. Une voiture de rallye qui avance dans la même direction. Dans une voiture, malheureusement, il n'y a qu'une personne qui peut tenir le volant. Le pilote et le copilote, ils sont quand même dans la même galère, entre guillemets. Ils sont dans la même direction et ils ont le même but. Il y a 2 ans, lors du rassemblement de notre jeunesse, lors du rassemblement de la jeunesse de notre union d'église, il y a un orateur qui disait, il a proposé cette compréhension du mot soumission, peut-être pas mal. Il a dit « soumission signifie être sous la mission d'eux ». Et qu'en fait, l'homme et la femme, ils ont juste la même mission. Et dans une voiture de rallye, ben c'est pareil. Il y a une seule mission, c'est d'aller au bout de l'étape. Et d'y aller entier, d'y arriver entier. Et il n'y en a qu'un seul qui peut tenir le volant, c'est le mari. Et le copilote, il est là pour l'aider à arriver à la mission. S'il y avait 2 volants dans une voiture, vous savez ce que ça donnerait? Il y a un dessin de Gaston Lagaffe qui est exactement comme ça, je vous le montre. Où la voiture finit par se partager en deux. Finalement, se soumettre à son mari, est-ce que ça ne voudrait pas dire gérer la confrontation de façon à lui laisser prendre ses responsabilités et à l'amener au meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même pour les chrétiens, c'est pas l'accession à la Maison Blanche comme Barak, mais c'est le progrès en Christ, atteindre la sainteté, renoncer à ses fautes pour devenir meilleur, témoigner de Christ, de son œuvre dans nos vies. Voilà la mission commune dans laquelle nous sommes engagés, mari et femme. Quelques clés pour une vie de couple harmonieuse. Femme, n'attendez pas que votre mari vous aime comme Christ pour lui être soumise. Sinon, vous pourriez attendre parfois longtemps. Et mari, n'attendez pas que votre femme soit soumise pour l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pédalo. Dans un pédalo, quand la personne qui est à côté de vous pédale pas, ça donne quoi? On fait des ronds dans l'eau. C'est vraiment l'effort mutuel qui permet au pédalo d'avancer dans le bon sens. Un encouragement permanent de l'un envers l'autre pour que le pédalo avance. Ok, on arrive à la fin. J'ai fait des cauchemars de cette prédication. Je reconnais qu'on vient de parler de choses qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Et j'espère que maintenant, ça ne vous paraît pas aussi polémique que ça pouvait paraître au début, de parler de « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église » et de « Femmes, soyez soumises à vos maris ». J'espère que ça ne vous paraît pas autant polémique qu'au début. J'espère aussi que vous vous rendez compte à quel point, en fait, Paul n'était pas un machiste, mais plutôt quelqu'un de moderne pour l'époque, de très moderne pour l'époque. L'Église, la relation de Christ et l'Église, c'est un modèle pour les relations de couple. Christ aime l'Église, il a donné sa vie pour elle. Le mari devrait aimer sa femme, être prêt à donner sa vie pour elle. L'Église est soumise à Christ, son chef. La femme devrait être soumise à son mari et lui laisser prendre ses responsabilités dans le couple. Et puis surtout, Christ fait grâce à son Église. Il traite son Église mieux qu'elle ne le mérite. Et ça aussi, on devrait le vivre dans nos couples. Nous traiter mutuellement mieux que nous ne le méritions. Christ a payé pour nous afin que nous soyons pardonnés. Et bien dans un couple, c'est pareil. On devrait se pardonner mutuellement. En tout cas, on est invité à se pardonner mutuellement et à se traiter mieux que nous ne le méritons. C'est terrible ces histoires de couple parce que le couple, et la vie de famille, ce sont véritablement des lieux de vérité, où on apparaît tel que l'on est, où nos masques tombent. Par exemple, si vous voulez vraiment savoir qui je suis, vous vous adressez à Bénédicte ou à mes enfants. Et ça ne sera pas forcément beau à voir. Mais c'est pour chacun d'entre nous la même chose. Soyons humbles, remplis de l'esprit, pour appliquer la parole de Dieu et avoir une vie de famille harmonieuse. Expérimenter cette grâce de Dieu, ce pardon mutuel et aussi le changement en mieux dans le couple et dans nos familles. Et je voudrais terminer avec une double remarque, parce que quand j'ai préparé ce message, il y a deux choses qui me mettaient mal à l'aise en arrivant ici, jusque-là, dans le message. Je me suis dit, et les célibataires, par rapport à tout ce que je viens de dire. Et le deuxième point que je me suis dit, et ceux aussi qui vivent la guerre dans le couple. Comment est-ce qu'on se positionne pour les célibataires et pour ceux qui ne vivent pas une vie de couple harmonieuse? On vient de voir que Dieu valorisait le mariage. Image de l'amour pour Dieu, de Dieu pour son peuple. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut vivre l'échec dans le couple? Mais aussi, Dieu valorise le célibat. Par rapport au célibat, il ne faut pas avoir peur. Dieu valorise aussi le célibat. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul, il dit que le célibat est un véritable don, un cadeau de la part de Dieu. Un cadeau qui permet d'éviter les souffrances inhérentes à la vie du couple. Un cadeau qui a l'avantage de pouvoir avoir du temps disponible pour Dieu aussi. Donc vous voyez cet équilibre. La Bible qui valorise à la fois le mariage, comme image de l'amour de Dieu pour son peuple, mais qui valorise aussi le célibat. Mais peut-être que certains célibataires parmi nous vivent un célibat forcé et ne le vivent pas comme un don de Dieu. Et c'est avec ça que je voudrais terminer. Eh bien, que vous soyez marié et heureux ou pas, ou que vous soyez célibataire et forcé ou pas, cette conclusion est la même. Si on a mis notre confiance en Jésus-Christ, s'il est notre Seigneur et notre Sauveur, eh bien, on fait partie de l'épouse du Christ. Christ nous a tant aimés qu'il a payé à notre place sur la croix. Il nous prépare une place auprès du Père. Le Père n'est plus en colère après nous. On bénéficie de cet amour infini de Dieu, un amour fidèle à jamais. Il ne nous laissera jamais, jamais tomber. Et c'est cette relation-là, c'est cette relation d'amour avec le Père, cette relation d'amour avec Jésus-Christ qui doit être le fondement de notre vie. Parce que même le plus abouti des mariages humains ne pourra jamais complètement combler cette soif d'amour qu'il y a en nous. Aucun mariage humain ne peut prétendre être parfaitement réussi et nous combler parfaitement. Mais en même temps, le mariage est précieux pour Dieu. Il reflète l'amour qu'il a pour son Église. Alors il faut chérir le mariage, mais ne pas l'idéaliser. Et plutôt attendre avec patience ce jour où Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, lui l'époux, pour prendre son épouse, l'Église, et la conduire à Dieu. Et alors, le mariage humain cessera à ce moment-là, quand Christ reviendra. Nous serons réunis pour toujours, avec celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours de façon parfaite. Si Dieu avait un réfrigérateur, il aurait collé ta photo dessus. Si Dieu avait un portefeuille, eh bien, ta photo serait aussi dedans. Lorsque tu sens le besoin de parler, il est toujours là pour t'écouter. Il pourrait faire sa demeure n'importe où, mais il a choisi de la faire dans ton cœur. Il t'aime. Et donc, quelle que soit ta situation maritale, quelles que soient les difficultés de ton existence, tu es invité à aimer Jésus en retour. Et tu es invité à trouver le sens de ta vie dans cet amour qu'il a pour toi. Amen.